qui m'a motivé et ce qui me motive pour faire ce travail de recherche, c'est d'abord la musique, et c'est la musique qui m'a amené à ce travail de recherche que j'ai fait sur la Bible. Et ce que je vais vous présenter n'est pas du tout n'est pas une totalité, hein, c'est tout à fait exhaustif. En fait, c'est un puits sans fond. C'est absolument gigantesque. Déjà, il faut peut-être que, pour moi, que je précise un petit peu, moi je suis juif de naissance, pratiquant, plus traditionnaliste, pratiquant, et je m'intéresse à la Bible et aux écrits bibliques, on va dire depuis 2-3 ans, de manière un petit peu plus approfondie. Je veux dire que c'est la musique qui m'a amené aussi à ce rapprochement avec la religion juive. Et je vais présenter la musique biblique, mais je ne vais pas présenter la musique biblique dans son ensemble, c'est-à-dire entre la musique juive, biblique, et puis la musique chrétienne. Je vais me cantonner, enfin, si on peut dire se cantonner, je dirais à la Torah, puisque la Torah n'est pas l'Ancien Testament, c'est la Torah. Hein. Il y a une grande différence entre dire que c'est l'Ancien Testament et la Torah, qui forme un ensemble qui s'appelle le Tanakh. Et donc la Torah est une partie du Tanakh. Donc c'est les cinq livres du Pentateuque. Alors je vais surtout essayer de parler de la musique et du rapport de la musique avec cette période-là, la période où la Bible a été écrite. Je pourrais même dire où la Bible a été composée. Parce que c'est une véritable composition, cette Torah, ce Tanakh. Une composition dans le sens étymologique du terme, où on prend un certain nombre, une thématique, un certain nombre d'éléments, et on les agence afin de construire quelque chose à partir d'une architecture que l'on va se donner, et un certain nombre de règles et de lois qui sont propres à la composition. Et pour moi, le Tanakh, c'est un ensemble de livres qui ont été écrits par un certain nombre de sages, et c'est un livre qui contient à la fois autant d'histoires que de psychologie, que de traités sociaux, que de politique, que d'éléments scientifiques, que de philosophie, que d'éducation, que d'ésotérisme, que d'architecture. On a absolument, dans le Tanakh, on a absolument tous ces éléments. Et bien sûr, on a un élément qui est fondamental, c'est l'inspiration divine. Pour que tous ces sages aient pu écrire ce livre. Et je pense que c'est le livre qui est le plus lu, le plus commenté, aussi le plus contesté. Et c'est un livre qui a une particularité extraordinaire, c'est que même à notre époque, après 3000 ans de son existence, il est toujours vivant, il est toujours commenté, et il pose toujours questions. Et c'est ces questions, ces interrogations, je dis, qui m'ont amené à faire et accepter cette conférence. Parce que pour moi, c'était quand même une gageure. Parce que parler de la musique à partir d'écrits et où il n'y a aucun témoignage, oraux, en tout cas sonore, on n'a pas de témoignage sonore de ce qu'était la musique biblique. On a des témoignages oraux qui se sont faits par transmission orale sur plusieurs siècles, sur plusieurs générations, sur plusieurs territoires, puisqu'il y a eu la diaspora, et que les transmissions ont été influencées à chaque fois par les lieux d'accueil dont où les Juifs se sont retrouvés après l'éparpillement et la diaspora du début de l'ère chrétienne. Alors, c'est une gageure parce que, donc, il n'y a pas non plus de traité, mais on a quand même un certain nombre d'indices. Alors j'ai fait un petit peu, j'ai choisi la position d'être un petit peu comme un enquêteur, et j'ai essayé d'aller dans le texte, non pas d'aller déjà dans les traités existants, ou dans des livres déjà existants, ou lire des auteurs qui avaient déjà traité de la question, parce qu'on est directement influencé par ces auteurs. Je me suis dit, bon, il faut essayer de toi-même te faire déjà ton opinion et d'aller voir dans la Bible elle-même ce que la Bible raconte et qu'est-ce qu'il y a comme témoignages musicaux. Alors, effectivement, il y a un très, très, très grand nombre d'occurrences dans lesquelles on trouve le mot chant, musique. On trouve chant, après on trouve musique. Après on a voix, la voix est partout. Et il y a plein de paradoxes, parce qu'on nous parle beaucoup de musique, mais quelle était la musique de cette époque-là? Ça, c'est une interrogation. Alors il faut arriver à mettre en jeu des rencontres, des comparaisons, parce que la Bible, bon, que je considère comme, je vais pour simplifier, je dis la Bible, hein, vous comprenez bien que je parle du Tanakh, hein, puisque je ne vais pas parler du Nouveau Testament et de l'Évangile. Je me cantonne vraiment dans cette plage historique. Donc dans la Bible, donc je parlais des occurrences, de toutes les citations, voix, musique, chant, instrument. On le trouve dans, bien sûr, on le trouve dans les psaumes, hein, bon, c'est les exemples qui sont les plus parlants, hein, dans les psaumes de David, où on a, bien sûr, aux chantres, aux instrumentistes, on a toute une catégorie, bon, sur laquelle je vais revenir peut-être tout à l'heure, petit à petit, hein, concernant la responsabilité du culte qui était donnée aux Lévites. Hein. Donc on a des recensements qui sont faits très régulièrement. Alors quand je parlais de psychologie, de politique, etc., effectivement, dans la Bible, quand vous lisez l'Ancien Testament, c'est des fois très difficile parce que vous avez une page entière avec des généalogies. Hein. Et il était le fils de... c'est une page entière et ça n'en finit pas. Et après, vous allez au... un autre livre, et c'est à nouveau un recensement, c'était le fils de. Et en fait, ce sont des registres de naissance, tout simplement. Hein, donc il y avait une administration dans la nation d'Israël, hein, parce qu'avant d'être Israël, c'était le peuple hébreu, et il y avait toute une administration donc, qui était en place, il y avait des registres. Hein. Et sur ces registres-là, effectivement, on trouve des noms, des chefs de chœur, des chefs instrumentaux. Ces chefs instrumentaux ont aussi d'autres chefs, qu'on appelle des répétiteurs de musique. Donc il y a toute une institution qui va se mettre en place à partir du Temple de Salomon, dont David sera le principal instigateur, je dirais, de toute cette organisation musicale. Sacerdotale d'une part et musicale d'autre part. Alors il y a un paradoxe dans la Bible, dès que on s'attaque à ce sujet, quand j'ai commencé à essayer de trouver des occurrences bibliques, justement, je me suis rendu compte que la musique avait une grande importance plutôt vers l'époque de David, au moment où la nation des Hébreux s'est constituée. Et tout ce déroulement de l'évolution musicale dans la Bible, qui se fait non pas par dizaines d'années, mais par centaines d'années, cette évolution, elle va aboutir à cette construction monumentale du peuple hébreu et de la nation hébraïque, dont le centre était Jérusalem. Alors, le premier paradoxe que je trouve, c'est dès la Genèse, donc Dieu parle, mais il ne parle pas directement. Il parle à travers la voix d'un narrateur. Donc c'est Dieu qui parle à travers le narrateur. Donc il y a une voix. Alors, on ne sait pas qui est le narrateur et on ne sait pas quelle voix a la voix de Dieu. On ne sait pas son nom non plus. Parce que quand vous parlez à quelqu'un, ben, il a un nom, Benoît, Michel, Sarah, et ce nom est lié à une personnalité et lié aussi à une vocalité de la personne. Quand vous la connaissez, vous reconnaissez sa voix aussi. Donc il y a la voix de Dieu à travers ce narrateur qu'on ne connaît pas, et la voix de Dieu qu'on ne connaît pas. Il y a le Verbe, donc il parle, hein, il y a la création qui est en train de se, la création qui est en train de se mettre en œuvre. Alors, tout ça est très abstrait. C'est très abstrait et en même temps, dans cette Genèse, il y a une certaine organisation. Parce qu'il y a la parole, bien sûr, il y a beaucoup de paroles. Et Dieu dit, et lui, que c'était bon, et il créa, il sépara le ciel de petit de jour, il fait la nuit, il sépara le ciel de l'eau, il créa les animaux, etc. Il y a toute progressivement, une organisation, je dirais normative, qui se met en place, de manière binaire, et de manière régulière. C'est-à-dire, pendant le premier jour, il se passe deux choses, après encore deux choses, etc. Alors, on pourrait croire que c'est des dualités, mais on pourrait aussi dire que c'est des complémentarités. Tout fonctionne par deux, pendant six jours. Donc, on a une régularité qui est en train de s'instaurer, et cette régularité, tout d'un coup, elle est coupée. Par un septième jour, où Dieu dit, ça y est, c'est fini, j'ai créé le monde et maintenant on se repose. Donc il y a une, dans la continuité, il y a tout d'un coup une discontinuité. Alors on peut, parce que pourquoi ça a été écrit de cette manière, alors on va essayer de le voir et de le comprendre en l'éclairant, et vous allez me dire, mais que, où est la musique dans tout ça? Ben, la musique est d'abord dans la voix. Ça, c'est le premier élément. Sans voix, il n'y a pas de musique. Après, elle est dans le verbe. Et sans langage, il n'y a pas de verbe. Ensuite, elle est dans le souffle. C'est le souffle de Dieu qui donne vie. Et c'est le souffle de Dieu qui permet à la musique d'exister. Parce que le souffle traverse la voix. Sans le souffle, il n'y a pas de voix. Ça, c'est un des éléments qu'on pourrait citer parmi beaucoup d'autres. Mais comme on parle de verbe, mais je vais peut-être aborder le verbe plus tard. Je vais revenir un petit peu, je vais parler de la voix et du verbe et du langage peut-être un petit peu plus tard. Là, je vais faire un pas de côté et je vais essayer de voir et de faire partager toutes les interrogations que j'ai eues et que j'ai encore, hein, par rapport aux propos que je suis en train de vous tenir. Parce que si la Bible s'est faite en un très grand nombre de siècles, et qu'elle continue d'ailleurs à se faire et à s'alimenter, je vous avouerai franchement que je fais aussi cette conférence un petit peu de la même manière. J'avance en direct, avec quand même quelques indices et quelques lumières qui me permettent d'avancer. Alors, je vais être un petit peu plus concret là, et je vais aller vous parler de la première occurrence que j'ai trouvée, où la musique intervient dans la Bible. Alors, il s'agit de la Genèse, donc chapitre 4, versets 21 et 22, pour ceux qui la connaissent par cœur, je sais qu'il y a des érudits qui connaissent la Bible par cœur, je suis admiratif, mais c'est bien d'arriver à citer les choses et pouvoir les situer de manière géographique dans le livre. Alors, Tubal-Caïn était l'inventeur, l'artisan des instruments, et notamment des instruments en cuivre. C'est-à-dire qu'au début, on a la voix, la parole, un narrateur, le verbe, le langage. On n'a pas de musique. Et vient quelques siècles après, un personnage qui va façonner la musique. Et donc c'est le départ, je dirais, de la construction de ce qu'est la musique, l'organisation. Pour qu'il y ait musique, il faut qu'il y ait un instrument, il faut qu'il y ait un timbre. Donc il y a déjà un travail artisanal de construction de la musique à partir de la matière. Alors ce personnage du Balkan est très intéressant parce que, comme je le disais tout à l'heure, la Bible est une encyclopédie, un creuset dans lequel se sont synthétisées une multitude de croyances de la Mésopotamie. Il y avait toutes sortes de dieux, toutes sortes de cultures, toutes sortes de traditions. Et on retrouve, la Bible est un texte qui est absolument, c'est un témoignage extraordinaire, parce qu'elle synthétise, elle rassemble en son sein toutes les cultures qui étaient environnantes. Si vous voulez trouver des traditions chaldéennes, vous les trouverez dans la Bible. Des traditions égyptiennes, vous les trouverez dans la Bible. Des traditions persanes, vous les trouverez dans la Bible. Et là, c'est intéressant. Alors pourquoi je dis ça? Parce que à l'époque mésopotamienne, il y avait beaucoup d'échanges entre les peuples, à travers le commerce, d'une part, aussi à travers les conquêtes et les guerres, mais à travers le commerce, et même à travers les guerres, on échangeait pas seulement de la marchandise, on échangeait aussi des idées. Alors c'est intéressant parce que ce fameux Tubal, qui a vécu. La Bible a été rédigée entre à peu près autour du 8e siècle, en tout cas le Pentateuque. On le situe à cette époque-là. Et il se trouve que 2-3 siècles après, il y a un personnage mythique qui s'appelle Pythagore. Alors pourquoi je l'appelle mythique, ce personnage? Parce qu'il n'a fait aucun écrit et que c'était un personnage exceptionnel. Je dirais un peu à la hauteur de Moïse, d'un Moïse qui a une aura et qui est un des prophètes le plus important de l'Ancien Testament, et un législateur, bien sûr. Et donc ce Pythagore, qui était un chercheur, un scientifique, un musicien, un mathématicien, qui avait fondé une école à Athènes, qu'on appelait l'école des pythagoriciens. Et il avait une particularité, ce Pythagore, il considérait la musique comme une des sciences fondamentales. Alors cet élément, bon, ces sciences fondamentales, on les retrouve ensuite, on va les retrouver dans certains versets de la Bible, hein, notamment quand il s'agit Dieu dans l'Exode et dans au Sinaï, va demander à Moïse de faire un chandelier. Donc Moïse va avoir quelques soucis de compréhension et Dieu va lui expliquer, va lui proposer d'aller voir le plan. Et quand on voit les commentaires sur ce chandelier, on voit que dans le Talmud, donc c'est-à-dire la tradition qui est orale, c'est la tradition orale de la Bible, les talmudistes disent, et notamment Rashi, le chandelier et les sept flammes du chandelier aux sept sciences, hein, les sept sciences qui sont l'astrologie, les mathématiques, la philosophie, la musique, et puis il y en a d'autres, hein, il y en a deux autres. Donc Pythagore a une école, il a un groupe d'élèves qu'on appelle les acousmaticiens. Alors qu'est-ce que c'est que les acousmaticiens ? Les acousmaticiens, vous avez compris que c'est en rapport avec la musique, hein, acoustique. Donc Pythagore enseignait, peut-être certains connaissent cette anecdote, il avait un drap et il était d'un côté du drap et ses disciples étaient de l'autre côté du drap. Et donc, il ne le voyait pas. Il ne faisait que l'entendre. Il n'avait pas l'image, il n'avait pas la personne visuelle de Pythagore. Donc, et tout son enseignement passait par la voix. Donc, il y avait un rejet de l'image. Alors on verra après peut-être faire les liens avec la Bible hébraïque. Pythagore se promenait, alors ça c'est une anecdote que racontent certains de ses disciples, dont Platon, et il se promenait et il a entendu des forgerons battre le fer. Et ils avaient tous des marteaux différents. En entendant ces marteaux de poids différents, il s'est rendu compte que le poids avait un rapport avec la hauteur des sons. Et donc il a compris que le rapport entre la hauteur et le poids avait une signification. Et donc il y a toute une théorie qu'il a mise en place et qu'il a testée aussi avec les cordes. Et en divisant les cordes par deux, on obtenait une moitié, en les divisant par trois, on obtenait un tiers. Après, on obtenait des deux tiers, des trois tiers, des quatre tiers. Et il a mis toute une théorie musicale au point à partir des mathématiques. Et il se trouve que ces théories ont servi à construire tout le langage musical que nous avons actuellement et ont été vérifiées à partir du XVIIIe siècle, notamment par Warren. Alors pourquoi je vous raconte cette anecdote? Parce que il y avait beaucoup d'échanges. Et pourquoi cette histoire de Tubal-Caïn, qui est forgeron et qui finalement est, je dirais, le père de la musique? Donc il y a peut-être un lien à faire entre la tradition grecque et puis la tradition hébraïque. Alors ce que je vous propose là, c'est peut-être de faire une petite pause musicale, puisque nous avons la chance d'avoir notre nouveau rabbin, Ariel Botbol, hein, qui nous a fait l'amitié d'être là ce soir. Et on a préparé un petit peu à l'improviste trois chants. Et peut-être que Ariel, monsieur le rabbin, voudra présenter le chant. Avinu Malkenu. Avinu Malkenu, ça fait partie de nos prières de Rosh Hashanah et de Kippour. Avinu Malkenu, littéralement, qui veut dire notre Père, notre Roi. Et donc on récite des phrases, plusieurs phrases qui commencent par Avinu Malkenu, et dans chacune des phrases, on demande des choses à Dieu. Par exemple, efface nos fautes, inscris-nous dans le livre de la vie, parce qu'on dit que Rosh Hashanah et Kippour, il y a le livre de la vie et le livre de la mort qui sont ouverts, et en fonction de nos actions, on est inscrit dans l'un de ces livres. Encore un troisième livre qui laisse en suspens ceux qui sont un peu mitigés entre les deux. Et voilà, donc c'est avec ce chant, avec cette prière de Avinu Malkenu, on demande un petit peu à Dieu d'être indulgent par rapport à son jugement envers nous.
Oh,
Alors la voix, après cet épisode de Tubal-Cain, à la fabrication des instruments, il va y avoir une alliance qui va se créer avec Abraham dans l'épisode du sacrifice d'Isaac. Tout le monde connaît sans doute cette séquence de la Bible où Dieu demande à Abraham de sacrifier son fils, et au moment où Abraham va s'exécuter, Dieu arrête son bras et lui demande de sacrifier un animal. Et il se trouve qu'il y a un bélier qui se trouvait là, qui était dans le quartier, tout d'un coup. Voilà, providentiel, et il a pu donc faire le sacrifice de cet agneau. Et le bélier avait deux cornes. Et donc, ces deux cornes vont avoir une très grande importance parce que ça va être aussi deux instruments, je dirais, non pas mythiques mais réels, parce que ce sont les deux plus anciens instruments de musique que l'on a de cette époque-là. On n'a aucun instrument de cette époque. Les instruments étaient extrêmement nombreux. Il y avait toutes sortes d'instruments, de harpe, de psaltérion, de sitar, des flûtes, mais il y a très peu de cuivre. On évoque très peu les cuivres, notamment dans l'histoire, quand on essaie de regarder un petit peu l'histoire antique et qu'on regarde la musique antique, il y a très peu de cuivre. Les seuls témoignages qu'on a de cuivre, ils sont une trompette que l'on a trouvée, une trompette d'argent que l'on a trouvée dans un cercueil de la dynastie égyptienne, Toutankhamon, je crois. Et puis, tous les bas-reliefs qu'on a sur les musiques des Assyriens, notamment, ou babyloniens, représentent des guerriers qui jouent de l'harpe, qui jouent du tambour. On n'a pas ces cuivres-là. La notion de cuivre, elle va arriver avec les écrits bibliques. Alors, on n'a pas les cuivres par deux ou par trois, mais on les a par centaines. Parce que le sacerdoce des Lévites, qui était consacré à la musique, ils étaient des centaines, et on avait dénombré 4000. Donc ces 4000, il y avait une hiérarchie, il y avait une organisation, et donc il y avait tout un groupe de musiciens qui jouaient des cuivres, des trompettes notamment. Il y a une séquence, justement, où on nous parle de la fanfare. Donc dans les nombres, nous avons une partie, donc on est dans les nombres, donc l'Éternel parle à Moïse et lui dit: fais-toi deux trompettes d'argent, tu les feras d'argent battu, c'est la fameuse trompette qu'on a trouvée dans le cercueil de Toutankhamon. Elles te serviront pour la convocation de l'assemblée, pour le départ des camps. Quand on en sonnera, toute l'assemblée se réunira auprès de toi, à l'entrée de la tente d'assignation. Si l'on ne sonne que d'une trompette, les princes, les chefs des milliers d'Israël se réuniront près de toi. Quand vous sonnerez avec éclat, ceux qui campent à leur nom partiront. Quand vous sonnerez avec éclat pour la seconde fois, ceux qui campent au midi partiront. On sonnera avec éclat pour le départ. Vous sonnerez aussi pour convoquer l'assemblée, mais vous ne sonnerez pas avec éclat. Les fils d'Aaron, les sacrificateurs, sonneront des trompettes. Ce sera pour une loi perpétuelle pour vous et pour vos descendants. Lorsque dans votre pays vous irez à la guerre contre l'ennemi qui vous combattra, vous sonnerez des trompettes avec éclat et vous serez présents au souvenir de l'Éternel votre Dieu. Donc là, dans ce texte biblique, Nombre chapitre 10, alors c'est intéressant parce que c'est un traité finalement. C'est un traité de signaux qui vont permettre aux cavaliers, aux guerriers, au peuple de se réunir. C'est-à-dire que c'est les signaux qui sont codifiés et qui donnent une information. Et on a là, je dirais, un exemple du premier traité de sélustique. Donc la sélustique, c'est l'art de codifier les signaux. Et c'est une science qui a été inventée par Toineau Arbaud à la Renaissance. Et donc c'est ce qui a servi ensuite pour toutes les armées françaises à pouvoir gérer les troupes sur le terrain d'une bataille. Donc c'était tous les signaux qui se faisaient par l'intermédiaire de la trompette. Donc ça, c'était un exemple que l'on trouve dans la Bible, qui est assez intéressant et novateur, parce que c'est le seul, je dirais, témoignage que l'on a, parce que ces signaux-là, peut-être qu'ils existaient d'une autre manière, vraisemblablement, dans les peuples qui entouraient les Hébreux. Mais le seul témoignage que l'on a, il est là. Et ce n'est pas une fiction, c'est une réalité, parce que c'est exactement la codification que l'on utilisait au XVIIe siècle, et que l'on a utilisé jusqu'à la guerre de 14-18. Et ensuite, il y a le téléphone qui est intervenu, et ces signaux ont disparu et ont pris une autre forme. Alors, il y a aussi un autre endroit où il est question de la trompette, pas exactement de la trompette, mais du corps, plus exactement, peut-être encore plus précis, d'une journée qu'on appelle le jour de la fanfare. Donc le jour de la fanfare, c'est un jour qui est très particulier, puisqu'il s'agit du jour de Yom Kippour, où l'on sonne le shofar. C'est le début de Rosh Hashanah d'abord, hein, et ça se prolonge, donc il y a les 10 jours de pénitence, et ensuite ça se termine avec Yom Kippour. Alors, peut-être que Monsieur le rabbin a apporté son shofar. Il y a un lien qui est très étroit entre, justement, avec Dieu, ces fameuses cornes, parce que c'est la première alliance donc avec Abraham. Et puis il y a un lien direct avec Dieu, parce que c'est un instrument qui n'a pas été fabriqué par l'homme. C'est un instrument naturel. C'est un instrument sans artefact. Un artefact, c'est quelque chose qui a été rajouté à la nature. Et c'est un instrument complètement naturel. Et c'est un instrument qui ne permet de faire que 3 sons. Il permet de faire un son grave, comme ceci, et un autre son, un deuxième, qui est la quinte, et un troisième, et ce sont des sons naturels. Alors ces sons-là, ils ont des propriétés harmoniques que Pythagore, dont j'ai parlé tout à l'heure, avait découvert. Ce sont les deux premières harmoniques naturelles. Donc il y a une codification aussi, comme la codification dont j'avais parlé tout à l'heure. Donc des sons qui sont courts, en fait il n'y en a pas 50, il y a 2 sons. Il y a un son long et un son bref. Il y a un son très long et il y a un certain nombre de sons qui se succèdent très rapidement. Et ces sons-là, qu'on appelle la taroua et la tekia, qui sont des symboles à la fois de paix et à la fois de justice. Bien, alors je vais vous parler de la voix, puisque la voix est liée avec le shofar. Parce que le shofar est un instrument symbolique, est un instrument naturel, et tout à l'heure je parlais de la voix et du souffle de Dieu à travers la voix. Dans la Genèse, la parole est sous-tendue par le langage, et le langage est sous-tendu par une syntaxe. Alors, il est dit dans un des commentaires bibliques que donc Moïse voit brûler un buisson. Donc je vais le prendre autrement. On parle du verbe. Au début, au commencement, fut le verbe. Alors le verbe, les mots, une particularité, c'est que dans l'hébreu, consonantique, vous savez qu'on a 22 lettres dans l'alphabet hébraïque, et qu'il n'y a pas de consonne, il n'y a pas de voyelle, pardon. Notamment dans la Torah. La Torah se lit avec uniquement les consonnes. Les voyelles ont été mises après, avec ce qu'on appelle le système massorétique et les tamils. Le système massorétique, c'est les voyelles, hein, qui sont E, A, I, U, et qui permettent de vocaliser les consonnes, de leur donner d'une certaine manière une vie et un sens. Sinon, on peut interpréter les lettres de différentes manières. Donc il y a ces premiers éléments, et si vous changez de voyelle sous une consonne, vous allez donner un sens différent au mot. Alors l'exemple que je pourrais donner là, c'est le mot Mila et Mela. Ils sont écrits de la même manière, c'est les 4 mêmes consonnes. Et le mot Mela veut dire mot, et le mot Mila veut dire coupure. Et bien, il y a quelque chose de très important, c'est parce qu'il y a un double sens que l'on retrouve dans énormément de vocabulaire hébraïque. Étant donné qu'on a ce double sens, à travers le mot, on peut établir une coupure. C'est-à-dire que dans tout le texte biblique, on peut établir une coupure. C'est-à-dire que les législateurs, le texte biblique, nous invite à la réflexion de couper le texte, de le tronçonner. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans la Genèse, où Dieu crée le monde en 6 jours, et le 7e jour, il y a une interruption, il y a une coupure. Et dans la tradition juive, il y a une cérémonie, un rite qui s'appelle la Brit Mila, ce n'est pas pour rien, c'est la circoncision de l'enfant qui se passe le 8e jour généralement, et cette circoncision détermine, enfin crée une alliance entre lui et le peuple juif. Alors, qu'est-ce qui est intéressant dans ce mot brisure et dans cette notion de la brisure? Et en quoi ça va nous intéresser aussi pour la musique? Dans un autre passage de la Bible, il est dit que les Hébreux virent la voix de Dieu. Alors, virent la voix, c'est quelque chose de compliqué, de voir la voix. On peut entendre la voix, on peut l'écouter, mais la voir, c'est très difficile. Et donc, il y a un rapport, je dirais, à l'écoute. Alors, je vais vous lire un petit extrait qui décrira peut-être mieux que je ne le fais ce que dit Gershom Scholem sur le nom de Dieu et la théorie kabbalistique du langage. Je le cite. « La vérité est le principe ou encore l'essence de ta parole », dit un verset du psalmiste, donc c'est un psaume, hein, le 119 précisément. « La vérité était au sens hébraïque ordinaire, la parole de Dieu perceptible de manière acoustique, c'est-à-dire dans le langage. La révélation, d'après l'enseignement de la synagogue, est un événement acoustique et non visuel. » C'est pour ça qu'il n'y a pas d'image, l'image est proscrite. Ce qui est très important dans le judaïsme, c'est l'acoustique, c'est l'écoute. C'est la raison pour laquelle nous avons « Shema Israël Adonai Elohim Adonai Echad »« Écoute Israël ». Et le mot « écoute » a un nombre d'occurrences absolument incalculable dans la Bible. Tout est basé sur l'écoute. Et l'écoute est fondamentale. Parce qu'il y a une différence entre entendre et écouter, bien sûr. Entendre ne fait pas intervenir la compréhension et la conscience des choses. Alors qu'écouter a peut-être une autre capacité, une autre propriété. Donc, alors sans cesse ce trait est souligné en rappelant les paroles de la Torah, au Deutéronome, justement, au numéro 4, du Deutéronome, verset 12, « Vous n'avez vu aucune image, rien qu'une voix. » Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Puisqu'on est chez Moïse, hein, donc je vais rester chez Moïse et je vais essayer d'avancer un petit peu, c'est un épisode qui est intéressant et que j'interprète à ma manière par rapport à la brisure, justement. Quand Moïse monte sur le mont Sinaï, donc, il voit le buisson qui se consume, sans brûler l'arbre, il veut s'approcher et Dieu lui dit « Tu dois enlever tes sandales parce que... » Alors, il y a une interprétation du Talmud qui dit que Moïse n'a pu comprendre la vision de cet arbre et des commandements que lui a donné Dieu seulement quand Dieu a pris la parole. C'est-à-dire que la parole de Dieu a pris le pas sur l'image et la compréhension, la non-compréhension que Moïse a eue. Donc la parole était importante. Quand Dieu a donné l'étape de la loi à Moïse, Moïse est descendu et pour des raisons d'idolâtrie, Moïse s'est mis en colère et il a brisé l'étable. Alors c'est intéressant parce que l'étable, c'est l'écriture de Dieu directement, mais en même temps on peut se poser la question, pourquoi il a brisé l'étable? Il y a une interprétation qui dit, il a brisé l'étable pour faire la brisure de l'alliance et pour écouter ce que l'étable avait à lui dire. C'est-à-dire, en brisant le sens qu'on donne aux choses ou qu'on voit aux choses au premier abord, en les brisant, on peut avoir une autre compréhension. Si vous avez un texte, au premier abord, il est incompréhensible, et si vous démontez ce texte, vous l'analysez, vous le découpez, donc vous en faites des brisures, petit à petit, en essayant de le remonter, ou pourquoi pas de le remonter d'une autre manière, vous allez y trouver une compréhension. Et c'est une chose que j'ai qui m'a été très utile, puisque je vous ferai entendre tout à l'heure un enregistrement que j'ai transcrit musicalement, et je ferai le lien justement avec l'écoute et la brisure, et le fait de démonter quelque chose va permettre d'en trouver sa compréhension. Alors on va faire une petite pause, et nous allons écouter le chauffard.
Ok, donc je vais faire les trois sons en doublant le premier au début et à la fin. Un petit peu avant, ça c'était à brûle pour froid.
Ah, je peux vous dire que c'est extrêmement difficile à faire. J'ai essayé, j'ai pas réussi.
Pas dire. Enchaîne avec les questions.
On va enchaîner avec un deuxième chant.
Alors ce chant-là, nous le disons à la fin de tous les offices du matin, enfin tous les jours à la fin de l'office du matin, juste avant la prière finale. Nous chantons ce passage qui est aussi une éloge de Dieu.
Parler un petit peu la signification, je dirais, des mots, des termes symboliques. Hein, j'ai assez peu parlé de musique finalement, parce que la musique se fait, je crois. Alors je vais vous faire entendre, par rapport à l'écoute, donc un extrait du schéma Israël qui a été enregistré par notre ancien rabbin de la synagogue de Belfort, que nous avons eu il y a une bonne quinzaine d'années, une bonne vingtaine d'années, qui s'appelle, il est toujours en vie, il vit en Israël, Meir Torjman, que certains d'entre vous connaissent, et ça va me permettre de lui rendre un hommage. Bon, avant d'écouter le schéma Israël, enfin un extrait du schéma Israël, je vais vous faire entendre un psaume. Donc c'est un psaume donc, de David, c'est le psaume 150, c'est le dernier, qui s'appelle Alléluia. C'est une tentative d'une musicologue qui s'appelle Suzanne Haïk Ventoura, qui a écrit un livre qui s'appelle La musique de la Bible révélée, et qui a fait tout un travail de recherche sur les Ta'amim, et qui a essayé, à partir de ces fameuses Ta'amim, Donc les tarimimes, c'est un système d'écriture musicale qui ressemble un petit peu aux neubes. C'est des petits signes que l'on met en dessous des consonnes ou au-dessus des consonnes. Et ces petits signes déterminent l'accentuation, donc c'est très important. Et ils déterminent aussi des petits motifs mélodiques. Il y en a à peu près 26. Et donc ces motifs mélodiques donc, permettent de cantiler et non pas de la psalmodie. La cantillation, c'est quelque chose qui est proche de la prosodie, donc parce que le texte biblique est prosodier, enfin la Torah, il n'y a pas de, métrique précise. Alors que la psalmodie, étant donné que ce sont des vers qui sont versifiés et la versification est métrique, donc on peut avoir une musique qui est beaucoup plus mesurée. Donc c'est la grande différence entre la psalmodie et la cantillation. Après le chant lui-même, la mélodie, c'est quelque chose qui est tout à fait différent, qui a une construction, une architecture. Cette musicologue a essayé de trouver une clé de lecture de ces fameux tahamim. Et elle a fait une tentative, elle a fait une expérience, c'est une tentative parmi d'autres, de trouver un code de lecture de ces tahamim. On a un code de lecture, mais c'est le code de lecture qui correspond aux massorètes qui ont été faites aux alentours du entre le 1er et le 5e siècle, et qui ont été aboutis vers le 8e siècle par l'école de Tibériade. Il y avait plusieurs écoles, il y avait une école de Tibériade, il y avait l'école palestinienne et il y avait l'école de Babylone. Ils avaient tous des visions différentes sur la manière dont il fallait cantiler la Bible et la manière dont il fallait, quel sens il fallait donner à ces petits signes et aux mélodies qu'on allait leur attribuer. Donc ils ont tous eu des différences, et en fait, c'est l'école de Tibériade qui a remporté le marché, si on peut parler comme ça. Donc elle a fait une autre tentative, elle a essayé d'essayer de trouver la clé de lecture des signes de l'époque biblique. Alors là, elle a fait peut-être une erreur, et je comprends pourquoi il y a un certain nombre de musicologues qui ont... Elle a été un petit peu mise sur le banc, parce qu'en fait, à l'époque biblique, il y avait ce qu'on appelle des tropes, il y avait des petits signes. Hein, les Grecs écrivaient dans leur chant, ils avaient leur texte, et ils écrivaient des annotations avec des lettres au-dessus du texte. Mais c'était très compliqué. Il y avait une trentaine de signes, et qui déterminaient une note, notamment. Et c'était très compliqué à lire. Et les Hébreux avaient, dans certains parchemins du IIe siècle, on trouve des petits signes qui sont des tropes et qui sont des accentuations et qui sont déjà des signes pour la ponctuation et pour l'intonation. Alors, elle n'a pas pu trouver la clé réellement parce que les massorètes ont été écrites, ont été divulguées, je dirais, à partir du VIIIe siècle. Et ils ont été vraiment imprimés à partir du début du Moyen-Âge. Donc, le travail qu'elle a fait, c'est plutôt, je dirais, un travail d'artiste, et c'est un travail qui a fonctionné, puisqu'elle a réussi à trouver une clé de lecture à toutes les tahamim de manière logique, et elle a fait un travail qui est assez remarquable, je trouve, et je vais vous faire entendre un des extraits, parce qu'elle a fait un très très grand nombre de transcriptions des psaumes, des lamentations, du cantique des cantiques, et puis certaines parties du Pentateuque. Alors on va écouter l'Alléluia.
Alléluia, 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 Alléluia,
ce que ça vaut comme témoignage, mais c'est un travail d'artiste, hein, voilà, qui est très intéressant, je trouve. parce que ça met en évidence le fait que même en utilisant une autre clé de lecture, on peut obtenir quelque chose. Et elle n'a quand même pas choisi n'importe quoi, parce qu'elle a utilisé quand même des critères qui sont des critères de l'époque. C'est-à-dire qu'elle a utilisé des modes doriens, des modes grecs, et puis elle a utilisé quelques modes aussi mésopotamiens, égyptiens. Donc il y avait des modes qui étaient... On sait que d'après les témoignages qu'on a visuels, parce qu'on n'a pas de témoignages sonores, mais les témoignages visuels que l'on a, quand on voit l'arc de David sur une mosaïque, par exemple, et qu'on voit 6 cordes dessus, ou 5 cordes dessus, on sait qu'on va avoir affaire à un certain type de mode. Alors on a des arcs qui ont 5 cordes, donc on sait que ça va être un pentatonique.
Un pentatonique... Ça peut être ça. Hein. Si on a le mode dorien, voilà, tout le monde connaît ce mode-là, et le mode mixolydien, qui est très utilisé chez les Hébreux, notamment, et dans les musiques synagogales, on utilise beaucoup ce mode-là. C'est très orientaliste, bien sûr. Et il y a encore plus orientaliste. Ça, c'est les modes persans. Hein. On a un mode qui est très utilisé en Europe centrale. Donc, je n'ai pas le vidéoprojecteur pour vous montrer un petit peu tout ça, mais donc elle a utilisé de manière, je dirais, intelligente les ressources qu'elle avait pour pouvoir faire ce travail qu'elle avait. Est-ce que vous avez des questions ? Alors, on va prendre les questions par trois. Voilà, vous avez toutes les questions que vous voulez. Hein, ça me permettra peut-être de rebondir et de dire des choses que j'avais prévu de dire et que je n'ai pas dit. Oui, madame.
Est-ce que les morceaux que vous avez chantés, est-ce qu'ils sont écrits de la même façon que n'importe quel morceau de Bach, de Mozart, de avec nos...
Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Alors je répondrai après la question.
Oui, donc la question c'était, est-ce qu'on utilise le chauffard aux offices ?
Quels sont les instruments de musique actuellement utilisés pendant les offices ?
Alors, c'est aussi une bonne question, vous voyez. Alors, quels sont les instruments actuellement utilisés pendant les offices ? Voilà, alors, la première question. Donc, le premier chant que nous avons chanté, c'était un chant Avinu Malkeinu, hein, c'est un chant anonyme judéo-espagnol, hein, de l'époque du Moyen-Âge, en fait, tout début de la Renaissance, peut-être. Et donc, qui est écrit de manière très simple, hein, puisque...
mode, hein, un petit peu arabisant, hein, que je vous ai dont je vous ai donné un exemple tout à l'heure. Donc il utilise ce mode là, c'est un mode mixolydien sur lequel on a rajouté une petite altération. Alors il y a une teneur, voilà. Donc c'est très basique, hein,
et c'est vocal. Généralement dans ce chant là il n'y a pas pas d'harmonie. C'est une musique qui est polyphonique. Donc là, en l'occurrence, c'est une musique à trois voix. Donc deux voix au début et trois voix, mais on n'avait pas la troisième voix tant qu'on l'a fait à deux voix. Donc le chant a une très grande importance. Et je dirais que dans le culte israélite, Et la musique est partout. Elle est dans la Bible et dans les chants. Aucune prière juive ne se fait de manière parlée. On ne parle pas, la lecture biblique ne se parle pas. Le seul moment où elle se parle, c'est dans l'étude, dans la yeshiva. Et quand on cantile la Bible, quand on psalmodie la Bible, quand on chante les prières, tout est chanté. Parce que si je vous, par exemple, et ça donne de la vie au texte, parce que déjà on a un texte, bon, pour le Pentateuque qui est consonantique, donc c'est déjà une difficulté. Ensuite, à l'époque, il fallait mémoriser, il y a eu une transmission orale qui a été très importante de la Bible, parce que tout le monde ne pouvait pas lire la Bible. Il n'y avait pas de voyelles. Donc il fallait transmettre oralement. Et donc le chant a énormément apporté pour la mémorisation biblique. Parce que si, par exemple, je chante ceci, hein, do, ré, mi, do, ré, mi, fa, sol, fa, mi, ré, do, si, la, sol. Vous pouvez me le répéter? Non. Voilà. Mais si maintenant je fais, et vous allez me dire, ah, mais je connais. Do, ré, mi, do, mi, fa, sol, sol, fa, mi, ré. Vous pouvez me le répéter? Presque. Voilà. Vous voyez? Donc le chant va donner, il va donner de la vie. Hein, c'est ce qu'on appelle la lecture sèche. Donc la lecture sèche qu'on a appris à des générations de musiciens et où il n'y avait pas de vie. Hein, parce que apprendre do, ré, mi, sol, fa, ré, do, ça ne veut rien dire. Il faut mettre le son dessus. Et si vous mettez le son dessus, vous donnez du sens. Et c'est ce qui est très important, peut-être, ce qu'il faut retenir dans le culte israélite, c'est que le chant est fondamental pour faire vivre la Torah. Si vous vous contentez de la... Parce que le chant vient du cœur et ça permet de donner du cœur, je dirais, à la Torah. Donc, actuellement, on privilégie plus le chant dans la pratique religieuse, je dirais, parce que le chant est quelque chose qui est direct, et on est en relation directe, peut-être, avec... notre relation, la relation qu'on peut avoir avec Dieu. Parce qu'il n'y a pas d'artefact, c'est la nature. Entre notre voix et puis l'âme, il n'y a pas d'intermédiaire. Alors que quand vous avez une trompette, vous avez des pistons, etc. Vous avez une mécanique sur un piano. Voilà. Donc il y a un lien qui est vraiment beaucoup plus direct. Mais on utilise encore, il y a des œuvres absolument gigantesques et absolument magnifiques, qui sont écrites avec toute la musique du 19e siècle, par exemple, même bien avant, hein, à partir du 16e siècle, est écrite avec une tradition occidentale, c'est-à-dire une harmonie, hein, avec des instruments, avec des orgues, avec des orchestres. Et on a des œuvres maintenant, parce que la liturgie, je dirais, et le répertoire liturgique, lui, est très mal connu. On a des œuvres qui sont monumentales et qui ont été écrites au XXe siècle. Hein, je pense notamment à, si vous avez l'occasion d'écouter soit le service sacré de Darius Milhaud ou le service sacré de Ernst Bloch, qui sont deux compositeurs du XXe siècle, du milieu du XXe siècle. Bloc un petit peu plus avant, et ces deux œuvres monumentales qui décrivent l'office du samedi matin. Donc, voilà, il y a une ouverture aussi à la musique moderne. Pour l'autre question, donc, est-ce qu'on utilise donc le chauffard? Alors, le chauffard est utilisé de manière exceptionnelle. Parce que c'est on l'utilise donc à Rosh Hashanah, et on l'utilise.
Pas mal les deux matins de Rosh Hashanah, et pour clôturer l'office de Kippour. C'est les deux. On l'utilise donc les deux matins de Rosh Hashanah, car Rosh Hashanah dure deux jours, où l'on fait, là je vous ai fait donc quatre sonneries, quatre types de sonneries. On en fait les deux matins de Rosh Hashanah 100 et 100. Et à Kippour, un échantillon à la fin de l'office.
Pourquoi on ne s'en sert pas plus?
Pourquoi est-ce qu'on ne se sert pas plus du chauffard?
C'est une question assez large, mais globalement, c'est parce que déjà, il y a un problème technique par rapport à nos lois de l'utiliser le Shabbat, par exemple. Mais c'est surtout parce que le chauffard a vocation à éveiller les âmes vers un repentir, un retour à la religion. Et que c'est surtout dans le mois qui précède, donc Rosh Hashanah, où on exhorte tous nos frères à faire teshuvah, à se repentir avant le jugement de Kippour. Donc c'est là qu'il a vraiment une utilité particulière.
Quels instruments on utilise pendant les offices? Alors, actuellement, il y a plusieurs courants dans le judaïsme. Il y a un courant libéral qui utilise l'orgue et le chœur. Alors après, je sais qu'à la synagogue, dans les grandes villes, on a des chœurs. Mais il y a très peu de synagogues qui peuvent maintenant mobiliser un chœur et former un chœur parce que les synagogues ont été... on a très peu de il faut des chanteurs, il faut avoir une communauté très importante pour pouvoir mobiliser une chorale. Donc c'est assez difficile. On a quelques chorales à Paris, il y a plusieurs chorales. Hein. Il y a des chorales à Strasbourg, hein, à Lyon.
Oui, alors effectivement, pour les instruments, donc il y a, comme l'a si bien dit Michel, plusieurs... Voilà, globalement, c'est que voix, parce qu'on n'a pas le droit de jouer d'un instrument de musique le Shabbat. Y a pas mal donc donc voilà, les grosses synagogues, surtout de tendance ashkénaze, donc d'Europe de l'Est, ont un chœur, comme par exemple donc à Strasbourg, à la grande synagogue de Paris, à Buffo, qui est une synagogue voisine à celle de Paris, et tous les Shabbats, non. Mais effectivement, alors, et certaines synagogues ancrées dans l'héritage kénaz montent une chorale pour les fêtes de Tishri, donc Rosh Hashanah et Kippour. Par exemple, à Nancy, c'est le Chazan, le chantre du Luxembourg, qui, quelques semaines avant, fait des répétitions avec la chorale et fait les offices de Kippour avec la chorale à Nancy, et à Colmar, à Marseille. Oui, effectivement, à l'époque du temple, les instruments, l'orchestre était indispensable. Dès qu'on faisait une prière, enfin ce qui à l'époque était une prière, ce n'est plus une prière d'aujourd'hui, automatiquement la fanfare démarrait à tous les jours. Et donc c'est les Lévites, donc de la tribu de Lévi, comme on l'a cité tout à l'heure, qui s'occupaient de la partie musicale. Après, en dehors des offices de Shabbat et fêtes, très souvent lors de cérémonies, et on peut voir toutes sortes d'instruments accompagner les offices. Ou par exemple, quand il y a une bar mitzvah dans des synagogues, mariage aussi, c'est très fréquent. Et donc voilà, énormément d'œuvres aussi dans la liturgie ashkénaze sont écrites pour orgue et voix.
Alors, merci Ariel.
On va poser la question. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Alors, non pas que chez les Ashkénazes, parce que dans la tradition séfarade, lors du pèlerinage,
Nadia, pose la question.
Elle répondait, elle complétait la réponse.
Ah, complétez la réponse, d'accord.
Bonjour, Nicolas. Je suis un peu déçue qu'on parle que de la tradition ashkénaze.
Dans la tradition séfarade, lors des pèlerinages, il y avait des orchestres qui précédaient les processions et qui accompagnaient les pèlerins vers les sites. Donc moi, toute ma vie, j'ai entendu ça. Et voilà. Et la musique chez les séfarades a toujours existé. Les orchestres de musiciens, que ce soit en Iran, je vois Simine qui est là, ou en Maroc ou ailleurs, c'était des juifs. C'était des orchestres juifs qui préservaient le répertoire musical, hein, à des époques où les dynasties almohades ou almoravides avaient interdit la musique et la poésie. Ce sont les orchestres juifs qui ont préservé ces répertoires musicaux. Donc voilà, dans la tradition séfarade, il y avait aussi de la musique. Merci.
Alors,
bon, alors, Madame Ofnondi, je me permets de vous répondre que je n'ai pas omis ce détail, étant donné que j'ai cité la chorale de Buffo, qui est une synagogue séfarade.
Voilà,
et plus précisément, une synagogue séfarade portugaise. Parce qu'il y a, en plus, des nuances, hein, entre les Espagnols, les Portugais. Alors, on peut citer, effectivement, ce que disait Natia, les orchestres accompagnaient les processions. Hein. Et donc, il y avait des processions, notamment avec Saul, hein, quand Saul a été roi, hein, par Samuel, eh bien, il lui a dit... va à cet endroit et tu rencontreras sur ton chemin des musiciens avec la harpe, le tambourin, etc., qui sont en train de prophétiser. Donc il y avait un lien entre la prophétie et la musique. Et dans tous les accompagnements de la Torah, quand on déplaçait le tabernacle dans le désert et qu'on a emmené le tabernacle donc, à Jérusalem, il a été accompagné par une grande procession. Il y avait souvent des grandes processions. À chaque fois qu'on sortait, on déplaçait l'arche, il y avait une procession musicale qui accompagnait. Et dans ces processions, il y avait des hommes, il y avait des instruments, il y avait des chanteurs, mais il y avait aussi des chanteuses. Donc il y a plusieurs endroits dans la Bible où il est fait mention justement des chœurs de femmes. Hein. Pas des danseuses seulement, ou des joueuses de tambourin, des femmes qui chantaient. Dans les écoles et pour le salon.
Une ou deux dernières questions, puis après je proposais qu'il termine par un chant.
Oui, très bien.
Et Marie-Christine.
Oui, dans les chorales actuelles, hein, dont on parlait à Paris, à Strasbourg et ailleurs, il y a combien de voix et est-ce qu'il y a des femmes?
Oui, donc on demande dans les chorales actuelles en France combien y a-t-il de voix et est-ce que les femmes y sont présentes. Alors il y a 4 voix, comme dans la plupart des chorales, 4 voix et il n'y a pas de femmes, car pour les offices ça pose certains problèmes à la rite, c'est-à-dire par rapport à la loi juive. Mais après, il existe aussi une chorale à Strasbourg, les polyphonies hébraïques, qui est une chorale assez importante, où il y a des hommes et des femmes. Mais elle ne fait pas de représentation pendant les offices.
Une dernière question.
Est-ce que dans la formation de rabbin, il y a une formation spécifique au chant?
Alors, est-ce que dans la formation des rabbins, donc au séminaire israélite de France, il y a une formation par rapport à tout ce qui est musical, par rapport au chant? Alors, jusqu'à il y a 2 ans, oui, c'était 2 heures chaque 2 semaines. Il y a 2 ans, ce cours a été suspendu.
Alors, pourquoi? Peut-être pour des raisons financières, je ne sais pas. Moi, je pense que ce cours était fondamental parce que on a besoin, pendant à l'époque biblique, les Lévites
le roi David et Salomon, le roi Salomon, avaient institué une école de formation, hein, puisqu'il y avait des chefs de chœur, des répétiteurs, etc. Et donc le chant, les Lévites étaient des professionnels du chant. Donc il y a une transmission qui s'est faite à grande échelle et qui a permis de transmettre de manière orale un certain nombre de traditions et un certain nombre de mélodies. Et toutes les massorètes et toutes les ta'amim qui ont été compilées pendant les 5 premiers siècles de l'ère chrétienne, ce sont des motifs et des mélodies que l'on avait, qu'on peut imaginer, ont été transmises. Alors, je vais vous donner, je vais vous faire entendre, j'ai retrouvé l'air de. On va conclure, ensuite on finira avec un chant. Hein. J'ai retrouvé le schéma Israël que je voulais vous faire entendre tout à l'heure, donc qui est la prière qui se fait 3 fois par jour et qui est la prière la plus importante, une des prières les plus importantes du culte israélien. Alors c'est une prière en 3 parties, je ne vais pas vous lire toutes les parties, mais je vais vous lire que la première partie. Je vous la lis en français, je vous donne la traduction, vous l'entendrez donc par le rabbin Meir Torjman, ça me permet de lui rendre hommage. Et grâce à lui, j'ai pu apprendre, parce que, je vous lis d'abord la signification. Donc, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de tous tes moyens. Que les commandements que je te prescris aujourd'hui soient gravés dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Tu en parleras constamment dans ta maison ou en voyage, en te couchant, en te levant. Attache-les en signe sur ta main et porte-les comme un fronton entre tes yeux. Écris-les sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Voilà. Alors, cette prière, elle a quelque chose d'extraordinaire, c'est que elle commence par tu aimeras. Donc c'est une injonction. Voilà. Tu aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme et de tous tes moyens. Je ne vais pas faire l'analyse du texte, hein, mais c'est un très beau texte. Et ensuite, il explique pourquoi il faut le faire, ce qu'on va avoir comme bénéfice et ce qui va nous arriver si on ne le fait pas, si on ne le respecte pas. Et la troisième partie nous raconte pourquoi on a ce texte et d'où nous venons. Et ça nous parle de la liberté que l'on a d'être sorti d'Égypte, notamment. Alors voilà ce texte, et c'est juste un extrait que je vais vous faire entendre. Et je vous le fais entendre parce que, comme on parlait de l'enseignement et du fait qu'il n'y ait plus cet enseignement, donc Meir Torjman, notre ancien rabbin, a fait cette formation, parce que, vous allez entendre, c'est absolument magnifique. Et grâce à lui, j'ai pu transcrire le chemin Israël avec les notes actuelles. Donc ça a été très compliqué parce qu'il n'y a pas de, c'est de la prosodie, il n'y a pas de métrique et c'était très complexe. Mais j'ai réussi et j'ai vérifié les ta'amim. Donc je me suis servi de ce qu'on appelle la table de Zarka de Samuel Nambourg et j'ai vérifié si les ta'amim correspondaient bien et c'est absolument magnifique. Alors je ne peux pas vous le montrer parce qu'il n'y a pas de vidéo projecteur aujourd'hui, mais tout correspond. Il y a une fidélité au ta'amim qui est exceptionnelle. Et ça m'a permis, pour rebondir un petit peu sur ce que je disais tout à l'heure par rapport à la coupure, hein, le fait de couper les choses, de casser les choses pour les refaire, le fait d'avoir transcrit cette mélodie-là, ça m'a permis de comprendre les ta'amim et de voir en plus différents niveaux, je dirais, syntaxiques dans la constitution de cette musique. Donc, quelle syntaxe avaient ces ta'amim entre eux ? Et j'ai vu que certains ta'amim correspondaient et fonctionnaient ensemble. Donc, je ne vais pas rentrer là-dessus. Peut-être qu'un jour, je ferai une conférence spécifiquement sur les ta'amim, ce qui est un sujet très intéressant. Et on va écouter ce petit extrait.
Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ve'ahavta et Adonai Elohecha, bechol levavecha, ובכל נפשך ובכל מאודך
5 minutes, qui est chanté beaucoup plus rapidement que cela. Donc, Meyer Forgeman m'avait fait cet enregistrement de manière pédagogique, très lentement, en respectant bien les timings, la respiration, les accentuations. Ce qui m'a permis de faire ce travail. Parce que la transmission a été bien faite. Elle a été bien faite parce qu'il y a eu l'enseignement. Et j'ai pu faire cette transcription et découvrir la syntaxe des termes. Nous allons terminer avec un dernier chant.
C'est pour rebondir le temps qu'il se prépare. Alors effectivement, déjà, Michel nous le récite le matin à la perfection. Bon, il dure 2-3 minutes plutôt. Et pour revenir à la formation, enfin à ce cours que l'on avait à l'école rabbinique, effectivement, il est indispensable. Par exemple, du fait que donc, dans le judaïsme, il y a le rite ashkénaze, le rite séfarade, le rite portugais qui est sous-jacent du rite séfarade. Même dans le rite ashkénaze, il y a plusieurs sortes. Et en général, donc, les juifs sont souvent liés à une synagogue particulière et donc ils ne connaissent qu'un rite. Et les rabbins, lorsqu'ils prenaient leur premier poste, ils se trouvaient, donc on ne choisit pas en général notre premier poste, on peut se trouver dans des synagogues ashkénazes alors que nous sommes séfarades, ou l'inverse, ou encore des synagogues qui ont l'habitude de faire tel morceau dans tel rite, etc. Et souvent, les rabbins ne connaissent pas forcément le morceau, et donc ce cours permettait, voilà, dans ma communauté, on me demande, ils ont l'habitude de faire tel chant, est-ce que vous pouvez m'aider? Et là, c'est là où, en plus de nous apprendre à chanter, le professeur avait tout son intérêt, tout son aura. Certains qui ont pu côtoyer plusieurs synagogues ont moins eu ce problème-là lorsqu'ils ont pris leur première communauté. Mais encore aujourd'hui, je reçois des fois des messages, peux-tu s'il te plaît m'enregistrer tel ou tel chant, parce que ma communauté, s'ils n'ont pas tel ou tel chant, c'est un scandale. Nous allons finir donc avec ce chant-là que l'on chante lorsque l'on remet la Torah à l'intérieur de l'arche le samedi matin et même les autres jours où on sort la Torah.
Hey, hey, hey. Un grand merci à cette conférence à double voix. Hein, en tout cas, merci Michel, parce que le thème demandé n'était pas facile à aborder. Hein, merci. Merci pour le jeune rabbin. Hein. La prochaine conférence, puisque cette année, hein, il y en a 8, elle aura lieu donc à la Maison du Peuple, hein, je dirais comme d'habitude, au 3e étage. Et ça sera Félix Verly qui viendra donc intervenir. Alors la trésorière se prépare, elle a son petit panier, hein, on vit uniquement avec vos dons, les adhésions. Voilà, ça fait un moment donné qu'on dure, les gens sont braves, ça nous permet de vivre. En tout cas, merci à vous tous d'être venus, un grand merci à Laurent, à Nadia, à la communauté juive qui nous a donc accueillis. Hein, quand on entend les chants, c'est quand même autrement mieux ici que dans le taux du peuple. Hein, ça me paraît quand même mieux situé. Alors on va vous donner juste une info, parce que je sais qu'il y a, il y avait un rassemblement, Laurent, hein, parce qu'on a plusieurs casquettes, et entre autres, il y avait, je vais laisser la parole à Laurent, hein, parce que je sais qu'il y a une info importante qui a été faite ici.